Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet pour les commissaires. D'abord, l'histoire de cet homme qui a commis un féminicide, qui a battu à mort sa conjointe et d'une façon violente. On a pu en parler tantôt. Suggestion commune entérinée par le juge de 10 ans et demi de prison. Par contre, le juge a dit, quand je regarde les faits, personnellement, j'aurais donné 12 ans. Et compte tenu des arrêts de la Cour suprême, ça en prend pas mal un juge pour renverser une telle entente entre deux procureurs. Est-ce que le système perd de la crédibilité dans ce genre de dossier? Est-ce qu'on perd confiance en la justice? Luc?
Non, parce que c'est bien documenté, ils ont bien fait leur travail. C'est sûr que c'est un crime répugnant. Là, c'est, le gars, il a 60 ans. Là. Puis sa conjointe a 74 ans, il la bat depuis des années, parce qu'à l'autopsie, ils se sont rendus compte qu'il y avait des blessures qui étaient très vieilles, très anciennes. La dernière fois qu'il l'a battu, il a cassé 10 côtes, puis les organes internes ont été atteints. C'est sûr que personnellement, ce qu'on a envie de dire, c'est non, laisse faire la prison, viens dans une cour avec moi, là, puis on va te faire la même chose que tu as faite à la femme. T'sais, tu n'auras pas de sentence de prison, c'est correct. C'est ça notre réflexe initial, t'sais, de vouloir rétablir la justice en disant c'est un crime odieux, il n'y a pas une peine de prison qui va pouvoir satisfaire notre envie de vengeance. Maintenant, le système de justice étant ce qu'il est, c'est pas mal fait. C'est-à-dire que, premièrement, il y a deux affaires. Le juge est obligé de se rendre à la décision depuis l'arrêt Cook de 2016, il est obligé de se rendre à la décision des deux de la proposition commune qui lui est faite par la Couronne et la Défense. Il y a très, très peu de marge de manœuvre quand ce genre de proposition lui est faite. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas un homicide volontaire, c'est pas un meurtre. Parce que ça n'a pas été jugé comme un meurtre. C'était il manquait d'éléments à la preuve. Mais quand tu dis c'est là que le bas blesse, là. Il manquait d'éléments à la preuve. La preuve n'était pas assez précise sur certains éléments. En quoi elle était imprécise? Et on ne sait pas exactement de quoi elle est décédée. Est-ce qu'elle est morte des coups qui lui ont été portés, des organes internes?
Ce qu'on ne sait pas, c'est vraiment ce qui s'est passé dans la maison. On sait qu'elle a été mortellement frappée, là. Mais de quelle façon?
Voilà. Donc, à partir du moment où tu ne le sais pas précisément, tu peux pas arriver à la conclusion que c'est un meurtre. Mais ça, c'est le système de justice qu'on s'est donné. Est-ce que ça rend justice, ce système-là? Est-ce que ce système-là, ce système-là protège la possibilité d'une erreur judiciaire que ce gars-là, finalement, est peut-être tombé sur le coin d'une table au moment où il l'a poussé? Bon, ça protège à mort l'accusé. Est-ce que ça protège la société? Est-ce que ce gars-là, remis en liberté après 10 ans, c'est une bonne chose pour la société. Ou remis en liberté trop tôt, parce que il y a aussi la question des libérations conditionnelles. Mais justement, il reste deux autres étapes à la justice.
Nathalie.
Ben, on n'en peut plus des sentences clémentes. Ce qu'on veut, c'est des sentences exemplaires, justes et dissuasives. Lorsque j'ai lu cet article, j'étais révoltée, indignée, puis tellement triste pour cette pauvre femme qui a subi des violences. Tu l'as dit, Paul, violences conjugales répétées. On va vous épargner les détails, là, mais tu l'as dit un peu, tu as référé un peu, Luc, mais c'est terrible ce qu'elle a vécu. Il ne pouvait pas s'approcher d'elle. Elle s'appelle Françoise Côté, cette victime. Il ne pouvait pas s'approcher d'elle, pourtant il l'a fait. Et ce qui me choque, c'est qu'au départ, il a été accusé de meurtre au second degré. Il a plaidé homicide involontaire. Dans les deux cas de figure, si vous regardez les dispositions du code criminel, autant pour meurtre au second degré que homicide involontaire, ce qu'on prévoit, c'est la prison perpétuité. Dans ce cas-ci, parce que la couronne et la défense se sont entendus, on dit ça va être 10 ans et demi de prison. Et le juge, tu l'as dit, tu l'as bien dit, Luc, l'arrêt de la Cour suprême en 2016 fait en sorte qu'un juge, s'il veut aller au-delà de la peine qui était convenue entre la couronne et la défense, il peut le faire. Mais il y a plusieurs étapes à travers lesquelles il doit passer, puis il doit démontrer que les deux, la couronne et la défense, ont erré. Mais ce qui m'a fait sursauter, c'est lorsque le juge a déclaré que la suggestion n'est pas dramatiquement inadéquate. Mais qu'est-ce qui devrait être adéquat pour rendre justice à cette femme qui a trouvé la mort dans des circonstances absolument horribles? Le type est allé chercher à dîner pendant qu'elle agonisait sur le plancher. C'est lui qui a appelé le 911 lorsqu'elle est revenue. Alors, je comprends que le droit, ça évolue. Si ce n'était de cet arrêt de la Cour suprême en 2016, peut-être la décision aurait été différente. Mais ce que j'ai envie de dire ce matin, est-ce que la magistrature, est-ce que les avocats qui plaident autant du côté de la défense que de la couronne, est-ce qu'on pourrait entreprendre une réflexion sur le sort qu'on réserve aux femmes, comme Françoise Côté, dans notre système de justice? Parce que l'impression qu'on a, c'est que les femmes sont traitées comme des citoyennes de seconde zone.
Mais c'est là, pas seulement les femmes, Nathalie, c'est pas seulement les femmes. Là. Cette décision-là, elle est pas sexuée, là. Elle est pas genrée. Ça aurait été exactement la même décision si ça avait été un homme. C'est à partir du moment où la justice n'est pas capable de faire la preuve hors de tout doute de la cause de la mort, puis des circonstances de la mort. Puis d'ailleurs, en droit administratif, ça ressemble à ça. À partir du moment où on n'est pas capable de faire la preuve exempte de tout doute, on est obligé d'accepter un facteur d'atténuation.
Oui, mais tu vois, la perception, Luc, c'est pas celle que... Je comprends ce que tu dis. T'as raison, sur le plan factuel, t'as raison. Mais en termes de perception, ce n'est pas ce qu'on reçoit comme message. Là, je vais aller sur un autre terrain. Combien de maires actuellement au Québec se battent contre la DPJ, contre les tribunaux, parce qu'elles veulent empêcher les pères de voir des enfants qui ont été abusés par les pères en question, qui ont été agressés par les pères en question. Combien de femmes ne sont pas entendues par les tribunaux, par les avocats? Il y en a des tonnes, Luc. Alors, tu vois, à un moment donné, l'impression qu'on a, c'est que au-delà du droit, qui peut paraître parfois très froid, insensible, inodore, incolore, on se dit, ben, il y a ces femmes comme Françoise Côté qui est morte, battue sauvagement. Et puis, on a l'impression que le gars, finalement, il s'en sort et s'en tire à bon compte, sachant que les dispositions dans le code criminel étaient beaucoup plus sévères. L'autre chose, si la couronne et la défense ne s'étaient pas entendues, qu'est-ce qui serait arrivé? Je pose la question. Je n'ai pas la réponse. Mais qu'est-ce qui se passe?
Tu peux présumer facilement que la couronne aurait demandé une peine beaucoup plus élevée que le résultat final, parce que c'est un compromis. Voilà. Puis condamné à perpétuité, après ça, il te reste à fixer le nombre d'années à passer en prison. Tu sais, à quel moment tu peux demander
Mais
une libération?
Mais ceci étant dit, il reste deux étapes dans la justice. La première étape, c'est qu'il y a les libérations conditionnelles. Ouais. J'espère qu'on se rappellera de ça. Quand
le gars, il va être expulsé, Luc.
Voilà,
il y a des chances d'être expulsé.
Ça, c'est la deuxième étape. Et sachant que ces deux étapes-là s'en viennent, donc lui, c'est un migrant, c'est un demandeur d'asile, pour l'instant, il n'a pas reçu ses papiers, il ne les recevra jamais, évidemment. Il va être arrêté dès la sortie de prison, il va être mis dans un centre de détention d'immigration, puis il va être envoyé dans son pays. C'est ça, il faut que ces deux étapes-là fonctionnent. C'est-à-dire qu'il faut que ces deux étapes-là se fassent. Si ces deux étapes-là se font correctement, la justice aura été rendue. Parce que lui, être envoyé d'où il vient... c'est aussi une sentence pour lui là. C'est pas ça qu'il voulait dans la vie là. Il voulait vivre au crochet d'une femme de 74 ans au Canada, c'est ça qu'il voulait.
Merci. On appelle ça des salopards. C'est un salopard. Il y a pas d'autre mot pour le dire.
Je pensais jamais aborder le sujet avec vous ce matin, mais on va le faire. Martha Stewart, une nouvelle icône sexuelle sur les réseaux sociaux. Et la question, à 81 ans, va-t-elle trop loin?
La commission Normando-Ferrandaise.
Martha Stewart est une icône depuis des années, évidemment, avec ses magazines, ses émissions de télé sur comment recevoir, comment avoir une vie agréable à la campagne dans sa grande maison du Connecticut, est devenue depuis quelque temps une icône sexuelle à 81 ans, Nathalie.
Oh my God! Écoute, elle a troqué ses moules à muffin pour les dessous à friolant, mesdames et messieurs. Martha est virée sur le capot. Hey, non, mais j'entendais toutes sortes de commentaires. Ah, les coups, elle est de son temps. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis profondément déçue de son attitude. Il faut dire qu'elle a 3,9 millions d'abonnés sur Instagram. Alors, moi, je pense que c'est plus une affaire, une opération marketing. T'sais, je comprends qu'à 81 ans, tu puisses encore avoir comme femme des désirs, des fantasmes, mais pour moi, Martha Stewart a utilisé la vieille méthode. T'sais, la vieille méthode, par exemple, elle a posé nue, elle était nue derrière un tablier pour faire la promotion d'un nouveau café à saveur de citrouille. Après ça, ben, des sous à friolant, effectivement, là, avec les manches en genre de minou, là, et puis les petites sandales, là, alors dans sa cuisine, en dégustant un café. Et là, tu dis, attends une minute, là. Et puis également dans sa piscine à East Hampton. Savez-vous quelle est la valeur moyenne des maisons à East Hampton, mes amis? Là?
À peine plus bas que le plateau, là, mais quand même.
Puis elle en a 4 ou 5, hein. Elle en a 4 ou 5.
Hey, c'est fou, elle avait ses airs de femme fatale. Moi, j'ai décroché. Pourquoi? Parce que Martha Stewart, c'est une femme qui a, je pense, qui a beaucoup de choses à dire, mais là, elle utilisait la voie de la facilité. Et pourquoi? Parce que quand je parlais de vieille méthode, la femme objet. Tu sais, écoute. Et puis je vais terminer en disant, c'est facile de se proclamer icône sexuelle à 81 ans lorsque tu as le moyen de te payer des séances de Botox puis d'avoir un corps qui a l'air 40 ans plus jeune. Sa valeur nette est évaluée là à 400 millions de dollars. Fait que honnêtement, Martha, là, elle m'impressionne pas.
Ben moi, bon, premièrement, ça a marché son truc, hein. Elle a fait un buzz. Oui. Elle a fait un buzz énorme avec ça. Puis, tu sais, je dirais que, bon, évidemment que si elle avait pas fait, si elle s'était présentée en habit du dimanche, elle aurait pas eu le même buzz. Ça fait que, d'un point de vue commercial, ça a fonctionné. Elle sait plus de choses que nous sur le marché. Elle est extraordinaire. Elle est comme dans le sens extraterrestre. Là. Tu la regardes, là, c'est pas seulement son visage qui a été refait, puis d'abord bien refait. Hein. Je sais pas si vous avez vu la chirurgie de Sylvester Stallone.
Ouais, c'est
pas le même. C'est juste qu'il n'y a pas les initiales du gars qui a fait de la chirurgie dans le front. Là.
Moi, je pense que c'est le même gars dans les films qui était dans le corner puis qui le guérissait quand il y avait des coupures. En tout cas, anyway, son visage est magnifique, sans rides. Je pense que c'est le même chirurgien que Poutine. C'est un peu gonflé, mais magnifiquement, bien arrondi, bien fait, etc. Ses bras, sa peau, ses mains.
Sa peau est blanche, c'est un blanc immaculé, aucune tache.
Chaque signe de vieillissement a fait l'objet d'une attaque en règle de la part de la science. Et ça, bon, c'est le signe des possédants. Hein. C'est plus que de la chirurgie esthétique. Là. C'est de la chirurgie esthétique faite par les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Par contre, côté mémoire, c'est pas tout à fait ça. Elle avait quatre lignes à dire, puis elle les lit sur un tableau, puis elle se trompe. Ben, elle se trompe pas, mais elle est obligée d'arrêter, puis de regarder. Elle penche tout le temps la tête vers le tableau, puis elle recommence, puis elle recommence. Puis à la fin, tu sais, elle repenche une dernière fois la tête, puis elle dit au revoir, ou quelque chose comme ça. Ben, le au revoir, t'étais peut-être pas obligé de le lire sur le tableau, Simonac. En tout cas, la mémoire déjoue ses tentatives de vieillissement. Il y a personne qui a envie de voir Martha Stewart tout nu. Personne. C'est pas un désir de la société, c'est pas un désir de elle, sans doute pas non plus envie de se montrer, mais il n'y a pas un homme qui a envie de voir cette femme-là toute nue, là. C'est pas ça la demande, là. Il n'y a pas de demande pour ça. Par contre, ce n'est pas du voyeurisme. C'est une forme d'amusement qui est un phénomène, comme le gars qui mange 60 hot dogs en une heure, il faut qu'il les mouille pour les avaler sans les mâcher. C'est ce genre d'amusement-là. C'est
là,
un buzz.
T'es en train de dire que c'est un animal de cirque, là.
C'est un animal
non,
de cirque.
Non, moi, je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est plus que ça, Luc. Faisons une comparaison. Tu parlais de Sylvester de Stallone. Imaginons Sylvester en train de faire la promotion d'un café à saveur citrouille, nu derrière son tablier. Quelle serait notre réaction? Écoute, on serait scandalisé.
On serait
crampé ou scandalisé, mais tu vois...
C'est une bonne idée que t'as.
Non, mais tu vois, puis même je t'imagine, toi, 80 ans, nu derrière ton tablier, faire la promotion de ton kombucha. Non, mais tu vois, prenons l'exemple. Alors, je trouve que c'est comme projeter l'image de la femme qu'on a des années 50, là, tu sais, la femme, dans le fond, qui est toujours associée à l'érotisme, à la sexualité. Prenons Jane Fonda, 84 ans. Quelle belle femme, on s'entend là-dessus. Elle aussi, elle était refaite.
Anne Sinclair, as-tu vu Anne Sinclair? 74
oui,
ans.
Oui, oui, oui.
Mais elle reste âgée, là. On voit ses rides de cou, etc. Mais une femme extraordinairement belle.
Ouais. Voilà. Mais tu vois, Jane Fonda, haïtienne, j'ai pris cet exemple, mon cher Luc, parce qu'elle est devenue une activiste de l'environnement. Elle défend la cause de l'environnement, est devenue la cause de sa vie. Mais elle a dépassé cette image de la femme sexy. Tu comprends?
Oui.
Et c'est ce que je reproche à Martha Stewart. Il me semble qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin. Je comprends que c'est amusant. Bon, c'est bien le fun, c'est bien cool. Lorsque j'entends des commentaires, dire ben c'est une façon pour elle de s'émanciper, de sortir du moule de la femme âgée qui n'a plus de désir, qui n'a plus de sexualité. Wow, on peut être tout ça en même temps puis pas avoir l'air de la nounouche de service.
Mais attends, deux, trois affaires. Premièrement, cette femme-là a commencé sa vie comme ça. Avez-vous vu la publicité qu'elle a faite quand elle avait 15 ans?
Non.
Ex-mannequin,
en
passant.
C'est amusant parce que c'est une publicité d'une affaire domestique. Elle a 15 ans, puis le mari qui lui a été donné dans cette pub-là doit avoir 55, 60.
Hey boy.
Ouais, c'est un peu... c'est une autre époque, hein?
Ouais.
Aussi, moi, je pense que... Il y a quelque chose qui m'a amusé en faisant la recherche, c'est que je me suis rendu compte que la raison pour laquelle elle l'a fait... Premièrement, elle est célibataire. Elle le dit partout. Elle crie haut et fort qu'elle est célibataire puis qu'elle trouve ça intenable. Qu'elle arrête pas de tomber amoureuse des amis de ses
Elle cherche un mec.
Mais pas juste à chercher un mec, c'est juste un petit peu plus profond que ça. Elle ne veut pas disparaître. Elle veut rejouer le film de sa vie. Le film de sa vie est tellement extraordinaire, tu sais. Elle a été mannequin. Elle a été mannequin pour Chanel aussi. Et elle veut...
C'est une très belle femme.
Oui, elle ne veut pas perdre sa jeunesse. Parce que dans un monde où le seul fait, par exemple, de perdre... d'avoir une marque d'automobile qui est pas tout à fait aussi fantastique que celle de Oprah Winfrey, le fait de vieillir te fait tout perdre.
Mais surtout qu'elle a été prise dans un scandale, elle s'est retrouvée en prison.
Elle avait 1 milliard d'actifs, elle est tombée à 400 millions.
C'est ça.
Mais il reste encore 5-6 maisons puis 400 millions d'actifs.
Oui, non.
Mais il y a quelque chose de pathétique, voilà, Luc, dans ce que tu décris. Il y a quelque chose de pathétique. Parce que moi, je pense qu'il n'y a rien de réjouissant là-dedans. Ça nous incite à réfléchir, effectivement, sur le sens de la vieillesse et sur cette espèce d'obsession de la jeunesse, là. Combien de femmes, d'hommes se font botoxer, puis effectivement, pour faire disparaître toute leur ride. Moi, je pense qu'elle aurait été sa cible. Bon, on lui souhaite un mec, honnêtement, peut-être ça aurait eu, ça aurait permis ça, qu'elle se trouve quelqu'un dans sa vie, mais je trouve ça...
Y a-tu des gars à l'antenne actuellement qui...
Non, mais ça, mon cher Luc, t'es mieux d'avoir un gros budget, là, hein,
Ça, c'est clair que pour les Hamptons...
Oui, mais petit café gratuit, par exemple.
Il y a ça. À Citrouille.
C'est 23.